Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter d'astronomie avec nous. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes trois, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour.
Et bonjour.
Et c'est le 98e épisode de l'émission. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de RDWA, le podcast de l'Étoile Polaire, rdwa.fr. Dans les émissions thématiques, vous retrouvez toutes les émissions depuis le début, illustrées par les belles photos du ciel de Axel et Rémi aussi. Voilà, on vous rappelle aussi qu'on arrive un peu à la fin de l'Étoile Polaire, puisque la dernière, ce sera la 100e, qui sera diffusée. Voilà. Donc l'année 2025 verra aussi la fin de l'Étoile Polaire. Donc on avait donné notre adresse mail depuis longtemps, hein, on l'a donné moult fois sur cette antenne, on la redonne, astro-rdwa@protonmail.com. Et on va pas forcément vous inviter à venir pour la rubrique Nouvel Œil, puisque on a plus beaucoup d'émissions. La 100e, ce sera une émission spéciale. On vous prépare une sorte de débat sur la science, à la fois ses réussites, à la fois ses limites. On avait un petit peu envie de ça, une émission spéciale pour terminer. On aura probablement quelques invités. Si vous êtes intéressé pour venir participer à ce débat, après tout, pourquoi pas, vous nous contactez sur l'adresse mail. Si vous êtes aussi intéressé pour reprendre l'émission, on a déjà, depuis le mois de septembre, fait cette proposition à l'antenne, mais pour l'instant, pas de réponse. Si vous voulez faire une émission d'astronomie, on vous aidera à mettre le pied à l'étrier. Voilà pour cette petite introduction. Pour l'instant, c'est le 98e épisode et voilà le sommaire. On va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir. Ensuite, on aura une petite actualité du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera la chronique astrale. Et cette semaine, je vous parlerai d'astronomie gravitationnelle. On verra un peu ce qui se cache derrière ce terme-là. Et puis après la pause musicale, ce sera la chronique spatiale, hein, la rubrique classique de Pierrick, qui cette semaine nous parlera de Yuri Gagarin.
Et ouais, petit hommage au premier homme dans l'espace.
Ok, et bien voilà, on a le sommaire, alors on est parti pour un petit voyage d'une petite heure ensemble dans le monde de l'astronomie. Et Axel, c'est toi qui commence avec le ciel ce soir.
Ouais, avec ce ciel du mois de décembre qui arrive. Et dans ce ciel du mois de décembre, il y a une étoile qui m'a sauté aux yeux hier soir, dès la tombée de la nuit. Même, il fait encore un tout petit peu jour, on la voit déjà au nord-est, et c'est Capella.
Capella, mais c'est clair, c'est un phare de
fou. Elle brille bien en ce moment, surtout elle est là dès la tombée de la nuit. Donc assez facile à repérer. L'étoile la plus brillante au nord en début de nuit, c'est Capella. Quand ça s'assombrit un peu à sa droite, on va pouvoir apercevoir Aldébaran du taureau. Et de l'autre côté, à l'ouest, sud-ouest, on a Vega, on a Altaïr, on a encore un peu des nébuleuses. Oui, tout à fait. Et par contre, on n'a plus du tout Arcturus. On a la Grande Ourse au nord avec ses 7 étoiles qui forment cette casserole dont le manche pointe vers Arcturus. Et ben on se rend bien compte si on prolonge qu'on arrive derrière l'horizon. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. Arcturus devrait revenir d'ici le printemps, enfin l'été même. Voilà. Si je reviens aux étoiles dont je parlais au début, Capella, Aldébaran, on attend que la nuit se fasse. Et un petit peu au-dessus d'Aldébaran, il y a ce fameux groupe d'étoiles que souvent les gens remarquent, mais que tout le monde ne connaît pas. C'est les fameuses Pléiades. Un petit groupe d'étoiles, petit en fait, pas tant que ça, puisque ça fait un peu plus que la taille de la pleine lune. Et assez facile à retrouver, et qui est source de nombreux questionnements, de nombreuses interrogations. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe d'étoiles? D'ailleurs, il y a un groupe sur Reddit, le site reddit.com, qui s'appelle uniquement c'est les Pléiades. Parce que il y en a qui ont eu marre de répondre 40 fois par jour aux questions. C'est quoi ce groupe d'étoiles? C'est quoi ce groupe d'étoiles? Que j'ai pris en photo mal avec mon téléphone. Ouais, mais bon, c'est les Pléiades. Non, c'est vrai que c'est assez particulier comme regroupement d'étoiles. Les autres petits amas qu'on peut voir d'étoiles sont plus diffus. Celles-ci sont quand même assez ponctuelles. On voit que c'est plusieurs étoiles, alors que quand on regarde la ruche ou la crèche, on voit un petit flou. Même les amas de percées, on voit un petit flou. On voit que c'est un truc un peu plus large,
mais on ne voit pas forcément les étoiles.
Voilà, ouais, c'est vraiment aux Pléiades. Là, on peut s'amuser à les compter. C'est les fameuses sept sœurs de la mythologie grecque. D'ailleurs, en anglais, ils ne parlent pas de Pléiades, ils parlent des Seven Sisters. En termes de planètes, eh bien, on a Saturne qui est là dès la tombée de la nuit au sud, quasiment au méridien en ce moment, dès la tombée de la nuit, un petit peu avant le méridien. Donc, méridien, c'est l'axe nord-sud. Si elle est un petit peu avant, ça veut dire qu'elle va monter encore un petit peu. Et puis, passer cet axe, elle commence à redescendre vers l'ouest. Donc, pour l'instant, au sud-est, c'est Saturne que vous voyez briller de façon bien stable. Je le rappelle, pour différencier une étoile d'une planète, ça se joue à ça, à l'œil nu. Les planètes ne scintillent pas. Pour Jupiter, il faut attendre un petit peu, puisqu'elle se lève en ce moment vers 22-23 heures. Ouais, c'est 22 heures le temps qu'elle passe au-dessus de nos montagnes, on va dire 22h30-23 heures, pour observer la géante Jupiter qui brille de plus en plus fort au fur et à mesure qu'elle se rapproche de nous, c'est normal. Qu'elle se rapproche de nous. La distance diminue, c'est pas vraiment qu'elle se rapproche de nous dans sa trajectoire. En ce moment, elle est à magnitude moins 2, même un peu plus bas que ça, donc quand même très brillant. Mais elle va continuer à briller de plus en plus fort. Et elle est toujours dans cette position, puisqu'elle a eu un petit mouvement rétrograde. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est toujours pas très loin de Castor et Pollux. Toujours ce petit. C'est pas un alignement, parce qu'elle est décalée, mais on a Castor, Pollux, et juste en dessous, Jupiter.
Oui, ça fait un moment qu'elle est dans cette zone.
Ouais. Et puis, si vous attendez que Jupiter soit visible, Castor et Pollux le sont aussi. Et sur la droite, un peu plus au sud, vous avez la fameuse constellation d'Orion, avec cette grande nébuleuse sous la ceinture d'Orion, ces trois étoiles qui sont alignées. J'ai cru que je disais leur nom, parce que ça commence par Al aussi. Les trois étoiles alignées, Alnita, Kalnilam et Mintaka. Et juste en dessous, vous avez comme un petit nuage. Vous aurez beau souffler, celui-là, il partira pas. Il est là depuis bien longtemps. Il est là pour encore quelques millions d'années. C'est la grande nébuleuse d'Orion, la seule nébuleuse qu'on peut voir à l'œil nu dans notre hémisphère. Et puis cette grande étoile qui, elle, par contre, peut-être ne sera plus là dans des millions d'années, Bételgeuse, l'étoile en haut à gauche de ce sablier que forme Orion, cette hypergéante rouge. Et si vous y connaissez, eh bien vous savez, et puis bon, si vous ne connaissez pas, je vous le dis quand même, les hypergéantes rouges, c'est la dernière étape des étoiles, ça dépend des étoiles, mais c'est dans la séquence principale, c'est la dernière étape d'une étoile avant son explosion. Voilà.
Bon, sa mort, hein, quelque part, bon, on peut dire ça, avant de devenir une naine blanche.
Ouais.
Un cadavre.
Ouais, c'est ça. Voilà, et puis si on suit les trois étoiles de la ceinture d'Orion vers la gauche, mais qu'on attend un petit peu aussi, parce qu'elle n'est pas là tout de suite, à 23h, pas encore, il faut attendre peut-être minuit, une heure, pour voir arriver Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, tout hémisphère confondu. Sirius qui est dans le grand chien, et voilà. Et puis on a ce petit carré, puisqu'au dessus on a Procyon, l'étoile la plus brillante du petit chien, et entre Sirius, Procyon et on va dire Rigel ou Orion en général, Bételgeuse si vous voulez, ça nous fait un petit triangle assez facile à retrouver, avec pas grand chose au milieu, puisque c'est au milieu, c'est la constellation de la licorne. Et celle-là, pour la voir.
Oui, il y a deux étoiles.
Ouais, voilà, c'est ça. Des étoiles très faibles, donc bon.
Tu vois les deux étoiles là-bas?
Mais c'est une constellation.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, en tout cas, cette constellation invisible, comme le sont les licornes finalement, elle est peut-être pas si mal nommée. Voilà. En tout cas, voilà, autour de la licorne, il y a pas mal d'étoiles brillantes de part et d'autre. Castor, Pollux, Procyon, Orion, avec ces deux, trois étoiles brillantes.
Oui, c'est une belle région du ciel, ouais. Je rajouterais sur t'as parlé de quand même qu'on voyait encore Vega en début de soirée,
ouais.
La fin du triangle d'été, et donc en fait je trouve que c'est le début de soirée, c'est un chouette moment en ce moment pour observer bien le dragon. Parce oui, que oui. du coup, il est, le dragon, il est souvent très haut dans le ciel. Enfin, il y a d'autres périodes de l'année où il est plus haut. Il est peut-être. Là, il est, je le trouve plus facilement observable. En particulier, la tête du dragon, je trouve qu'elle se détache pas mal en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Et j'aime bien cette partie de. J'aime bien cette constellation. Déjà, elle a une forme quand même un petit peu. Enfin, elle est grande. Elle ouais. serpente vraiment entre la grande ours et la petite ours. Et après, elle a vraiment sa tête qui revient vers Vega.
Ouais.
Mais avec vraiment cette espèce de polygone qui lui fait la tête et ses yeux. Quoi.
Deux yeux, ouais.
Vraiment, et deux yeux colorés en plus.
Eltanine et l'autre.
Ouais, ouais, et l'autre, voilà. Et il y en a une qui est un peu plus orangée que l'autre, l'autre qui est un peu plus bleue. Enfin, il y a vraiment les deux yeux du dragon. Si vous pouvez repérer ça, c'est vrai que c'est. Moi, j'aime bien cette partie du ciel. Quoi. Et là, en ce moment, on le voit très bien.
Ouais, c'est vrai.
Sinon, on a Mercure qui
voilà,
va...
Voilà, j'allais y venir, mais ouais. je t'en prie. Vas-y.
Bon, voilà, bon, c'était juste mentionner ça. Au début du mois de décembre, on a Mercure qui va faire une petite apparition dans le ciel du matin.
Ok, au petit matin, oui. juste avant le lever du soleil, donc à l'est.
C'est ça.
On peut voir...
Un petit point, alors c'est pas un gros point, Mercure. Hein, mais,
oui. Ouais, quand même, ça brille.
Mais ça peut briller, ouais, ouais. Donc là, apparemment, début décembre, il y a un petit
c'est
moment
court,
pour...
C'est court, c'est le moment pour observer.
Pour l'observer.
Et court. Ouais. C'est une demi-heure, une heure à tout casser.
On a quand même le carré de Pégase hein, en début de nuit.
Ah oui, le carré de Pégase plein sud.
Pas mentionné, mais ouais, qui est quand même bien là, avec du coup la grande galaxie d'Andromède.
Ouais, qui est bien haute en ce moment.
Sous les poissons.
Le meilleur moment de l'année pour observer ou pire, photographier Andromède. C'est en ce moment. Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Pour et puis une belle voie lactée toujours hein, quand même. Hein,
ouais, on a l'autre côté de la voie lactée de l'été.
On parlait la dernière fois.
Mais... Ouais.
Et là.
Qui termine dans. Enfin, qui passe par Cassiopée.
Et Percé.
Ouais. Ouais. Tout à fait.
En tout cas, plein de belles choses à observer en ce moment dans le ciel. Et puis, quand même, on a la chance d'avoir Jupiter et Saturne. Donc, c'est quand même pas. C'est pas rien. Elles sont bien positionnées pour l'observation.
Ouais, contrairement à cet été.
Saturne en début de soirée, Jupiter un peu plus tard. C'est bon, alors Saturne, cette petite frustration qu'en ce moment, on en a déjà parlé, il n'y a pas les anneaux, puisqu'on est dans le plan des anneaux, donc
peu,
ils sont extrêmement fins, donc voilà, ça change un petit peu le visage habituel de la planète. Mais il y a quand même moyen de faire de jolies observations de ces planètes et puis du reste du ciel en ce moment, à condition que le ciel soit dégagé, ce qui n'est pas tout
ça,
le
c'est
cas
moins,
en ce
c'est
moment.
Moins sûr. Ouais.
Voilà. Eh bien, merci pour ce tour du ciel. On va passer à une petite actu du monde de l'astronomie. Je voulais vous mentionner ça et j'ai vu que cet été, en fait, il y a eu la découverte d'une nouvelle quasi-lune autour de la Terre. Alors, une quasi-lune, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un rocher, hein, un astéroïde qui en fait va se mettre à orbiter près de la Terre. Mais la différence entre une lune ou un satellite, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment un objet qui est pris dans la gravitation d'une planète, donc notre lune, hein, qui ouais. tourne autour de la Terre, vraiment. Et c'est la Terre qui l'emmène dans son mouvement autour du Soleil, mais la lune, elle est dans le champ gravitationnel de la Terre. Une quasi-lune, en fait, ça va être un objet qui, bon, déjà, est souvent plus petit, et puis qui n'est pas dans le champ gravitationnel vraiment de la Terre, mais qui en fait orbite en même temps que la Terre autour du Soleil. C'est plutôt ça
l'idée. Qui est au même endroit.
Voilà, ouais. Qui est au même endroit et qui suit en fait la trajectoire de la Terre autour du Soleil.
C'est plutôt
mais c'est
voisin,
pas la Terre qui l'a capturé. Ouais.
C'est plutôt un voisin orbital que.
C'est ça.
Ouais.
C'est un compagnon de route ouais. et qui peut rester là quelques centaines d'années. Et donc là, celle qu'ils ont découverte cet été, elle a la taille d'un petit immeuble, je crois, fait une dizaine de mètres, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est tout petit.
Ouais, ouais c'est petit. Ils l'appellent PN7. En fait, il y a 7 quasi-lunes autour de la Terre. Donc c'était ça aussi, j'avais envie d'en parler surtout pour ça, parce qu'en fait, cette idée que les planètes voyagent autour du Soleil avec des compagnons, en fait, on l'a déjà dit, hein, on a parfois cette vision du système solaire très stéréotypée, voilà, avec les planètes, la ceinture d'astéroïdes, etc. Mais en fait, il y a tout un tas de trucs qui se baladent dans le système solaire, de petits corps, de poussière, de masse. En fait, c'est pas si simple le système solaire. C'est assez chaotique au final. Il y a plein de choses qui se baladent, quoi, qui sont pas forcément très grosses, mais qui sont là. Et donc, il y a ce concept de quasi-lune, voilà. Donc, on en a trouvé une. il n'y a pas longtemps et j'avais envie de le mentionner.
Il y en a 7, hein, c'est ça que tu as dit.
Ouais.
7 quasi-lunes. De la taille de.
De différentes tailles, ouais, c'est quelques dizaines de mètres en général. Donc, c'est les gros, c'est des astéroïdes, quoi.
C'est à différencier des mini-lunes,
ouais,
qui elles tournent vraiment
tout
autour.
Tout à fait. Mais qui sont juste en fait plus petites.
Ouais. Mais qui sont vraiment capturées par,
ouais,
par la Terre.
Par la Terre elle-même, ouais.
Contrairement à l'autre qui se trouve au même endroit.
C'est ça.
Très bien.
Tout à fait. Voilà pour cette petite actu, cette petite, je dirais, curiosité,
ouais,
du système solaire. Alors, on va passer à la chronique astrale. Et donc, cette semaine, j'ai dit, j'allais vous parler d'astronomie gravitationnelle. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'émission, ça fait un petit moment que je suis sur cette thématique de l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde. J'avais commencé avant l'été, j'ai terminé après, jusqu'à la dernière émission, où en fait, j'avais parlé de toutes les différentes parties du spectre électromagnétique. Donc, on avait parlé du visible, qui est, je dirais, la discipline de base de l'astronomie, c'est-à-dire observer avec les yeux ou observer avec un télescope, c'est la même chose, c'est dans le visible. Donc, ces longueurs d'onde qui sont comprises entre le rouge et le bleu. Ensuite, on avait parlé des infrarouges, on avait parlé des ondes radio, on avait parlé des ultraviolets et on avait aussi parlé des rayons X et des rayons gamma. Donc, il y a peut-être cinq émissions là, sur toutes ces thématiques-là. Donc là, j'avais clôturé le spectre électromagnétique. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler de quelque part ce nouveau domaine de l'astronomie qui est celui des ondes gravitationnelles. Et donc de l'observation, non pas du champ électromagnétique, mais vraiment d'observer les perturbations gravitationnelles dans l'univers. Donc c'est complètement un autre prisme, quoi, une autre façon d'entrer dans la connaissance du cosmos.
Sort des ondes électromagnétiques.
Ouais. C'est ça. Ouais. Ah oui. Là, on n'est plus dans les photons, dans tout ça, dans la lumière, quelle que soit la longueur d'onde. Hein, je dis que ce soit des ondes radio ou des ondes gamma, tout ça, c'est la même nature. C'est-à-dire, on regarde les vibrations du champ électromagnétique de l'espace. Là, on regarde une autre propriété qui n'a rien à voir et qui est le champ gravitationnel. Donc, tout ce qui est créé par les masses, en fait, dans l'espace. Donc là encore, un peu comme dans la dernière émission là, sur les rayons X et les rayons gamma, quand on parle d'ondes gravitationnelles, on parle en fait de phénomènes très énergétiques. Parce que, en fait, c'est aussi lié à la sensibilité des détecteurs. Donc on est au tout début hein, de l'astronomie gravitationnelle, puisque la première détection de tous les temps, c'était en 2015. Ouais. Donc ça a 10 ans. Quoi. Donc c'est tout frais, quoi. Avant, c'était théorisé, j'y mets en parler, mais ça n'avait jamais été observé. La première observation, c'est 2015. Donc, on est sur un champ de l'astrophysique qui s'ouvre, en fait.
Je me souviens où j'étais quand j'ai appris ça. Je me souviens cette journée.
Ah bah oui, c'était pour ça. Quoi. On l'attendait en même temps, ça sortait pas de nulle part. Je vais en parler, mais.
Ouais. T'étais où?
J'étais à dit chez un pote, mais je me renvoie lire ça et me dire non, on a fait ça.
Oui, ça t'a marqué la nouvelle, ouais. Bah oui, c'était quand même. Bah, il y a eu un prix Nobel hein, pour ça, hein, c'est pas rien. Hein. Bon, en tout cas, on est plutôt sur des phénomènes énergétiques qui vont générer en fait des perturbations gravitationnelles intenses et qu'on va être capable de détecter. Pour l'instant, on n'en est pas au stade où on peut détecter autre chose avec les ondes gravitationnelles. Bon, alors, de quoi on parle? On parle d'ondes gravitationnelles, ça veut dire on parle d'oscillation de la courbure de l'espace-temps. Donc, on peut prendre une image pour un peu essayer de saisir le sujet. C'est l'image d'une orange qui est posée sur un coussin. Vous imaginez que cette orange, c'est une planète, ou une étoile plutôt, puisque là, on parle de masse un peu conséquente, donc même une grosse étoile. Et le coussin, c'est l'espace-temps. Et vous voyez bien que vous posez l'orange sur le coussin, le coussin se déforme et va épouser la courbure de l'orange. Quoi. Et ben c'est un peu ça l'idée de ce qui se passe dans le champ gravitationnel quand vous autour de la présence d'une grosse masse, d'une grosse étoile et d'autant plus d'un centre d'un cœur de galaxie par exemple. Qui, on le sait, on l'a observé, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup il semblerait qu'il y ait des trous noirs hypermassifs au centre de la plupart des galaxies. Donc là, avec des masses énormes et qui, effectivement, déforment l'espace-temps. Et l'idée, en fait, d'observer les ondes gravitationnelles, c'est d'imaginer, un peu comme à la surface de l'eau, vous balancez un caillou, vous avez une onde qui se propage une onde mécanique cette fois qui se propage dans l'eau, et bien vous imaginez cette propriété de l'univers qui est son champ gravitationnel et qui en fait va être perturbé par des masses importantes et en fait qui vont générer des ondes comme à la surface de l'eau mais dans le champ gravitationnel. Et on va essayer de capter ces ondes, de les détecter pour étudier les phénomènes qui les ont créés. C'est ça le principe de l'astronomie gravitationnelle. Donc, au niveau de la théorie, ça a été en fait le premier à en avoir parlé. Il semblerait que ce soit Poincaré en 1905, ah oui, qui déjà avait cette idée. Bon, on était déjà dans le formalisme. Alors, je renvoie aux émissions passées. Je ne vais pas reprendre là-dessus, mais tout ce qui était dualité onde-corpuscule en fait avec l'électromagnétisme, où en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait aborder la lumière de deux façons différentes, soit comme une onde, soit comme un paquet de photons, donc plus comme quelque chose de corpusculaire. J'ai fait des émissions là-dessus, je ne vais pas reprendre.
Ouais, la 22.
Merci Axel. Et en fait, bah, du coup, quand on est arrivé sur la gravitation, de dire, bah, en fait, on peut faire la même chose. Donc, on va imaginer une onde gravitationnelle et on va imaginer, au lieu d'un photon, on va imaginer un graviton. C'est-à-dire une particule, qu'on appelle une particule de jauge en physique, mais une particule en fait qui va véhiculer l'interaction.
Là, ce que tu dis, elle n'existe pas. Hein. C'est pas un truc.
Alors j'allais le dire. Ah, en fait, autant l'onde, mais t'as raison, autant l'onde gravitationnelle, elle existe,
oui,
puisqu'on l'a détectée. Autant le graviton, pour l'instant, il n'y a aucune détection de ça. Il n'y a même aucune preuve que ça existe.
Oui. C'est un biais de l'esprit pour essayer d'expliquer.
C'est pas un biais de l'esprit, c'est un parallèle par rapport à ce qu'on connaît. Oui, c'est une,
oui,
forme de biais de l'esprit.
Ouais.
C'est vrai. Donc voilà, on en est là. Alors, juste historiquement, en fait, ce qui s'est passé, le truc qui a un peu vraiment marqué expérimentalement cette discipline de l'astronomie gravitationnelle, c'est 1974, avec deux Américains, Hulse et Taylor, qui en fait observaient un pulsar binaire. Alors un pulsar binaire, en fait, un pulsar c'est une étoile à neutrons, grosso modo, mais dont l'axe de rotation est orienté vers nous. Et du coup, il va nous envoyer des petits signaux à intervalles très réguliers. Et là, c'est un pulsar binaire parce qu'en fait, il y a une deuxième étoile à neutrons autour. Bon, ça n'a pas de grande importance, c'est juste pour le mentionner. En tout cas, ils observaient cet objet-là. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que ce pulsar binaire perdait de l'énergie d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que en fait les deux étoiles à neutrons qui tournaient l'une autour de l'autre se mettaient, ils ont mesuré ça expérimentalement, qu'il y avait une accélération des deux de la rotation en fait de ce pulsar et donc une diminution de distance entre les deux étoiles. Donc ça typiquement c'est un système qui perd de l'énergie. Les trucs se rapprochent, se mettent à tourner plus vite les uns autour de l'autre, c'est ce qui pourrait se passer. Tu vois, c'est l'inverse qui se passe avec la. Enfin. Et donc, ils ont fait les calculs par rapport à l'observation et ils se sont rendus compte que c'était complètement dans le cadre de ce que la relativité générale prévoyait en cas d'émission d'ondes gravitationnelles. Ça marchait complètement. Ouais. Et en disant, si cette onde gravitationnelle, qu'à l'époque, on n'avait toujours pas détectée, mais ils disaient, en fait, c'est complètement compatible, l'observation qu'on fait, avec cette théorie-là. Et ça a été un énorme succès, en fait. La preuve, en fait, ils ont apporté la preuve que ce système perdait de l'énergie par onde gravitationnelle, même si à l'époque, on n'avait pas encore détecté les ondes. Ils ont eu un prix Nobel, quand même, qui est tombé en 93 pour ça. Et donc, en fait, il y a cette idée d'onde gravitationnelle, et ça fait depuis les années 60 qu'on cherchait à la détecter, en fait. Et donc, au départ, c'était ce qu'on utilisait, des barres résonantes, ce qu'on appelle des barres de Weber. Et c'est, en gros, deux petites masselottes qui sont reliées par une barre. Et en gros, l'idée, c'est que quand une onde gravitationnelle passe au milieu, ben, ça va faire osciller cette barre.
C'est une grande barre ou non, c'est...
non, pas forcément. De toute façon, on n'utilise plus ces systèmes-là.
Ouais.
C'est juste pour le mentionner parce que ça permet aussi de comprendre un petit peu comment on peut détecter une onde gravitationnelle. Une gravitationnelle, c'est une onde, quelque part, de masse qui agit sur les masses. Donc, si vous avez des petites masses qui sont de part et d'autre d'une barre, ben, en fait, l'onde, elle va passer au milieu, elle va agir sur les masses. Et donc, ben, ça va typiquement raccourcir la longueur de la barre. Mais très petit. Enfin, c'est on est sur des trucs, mais qui sont d'une précision qu'on n'a pas réussi à obtenir en 2015, en fait.
Ouais, ouais.
En tout cas, c'était le principe de base. Maintenant, la façon, ils ont jamais réussi, en fait, à détecter les ondes gravitationnelles avec ce système. Donc, ils sont passés à autre chose, et ils sont passés à l'utilisation de l'interférométrie. Donc, voilà, les interféromètres de type Michelson. Ça, pour ceux qui ont fait de la physique, ils connaissent forcément, mais ça va être une petite proportion de la population. Michelson, voilà, Michelson, c'est un interféromètre, c'est-à-dire qu'on prend de la lumière, on la divise en deux avec une lame semi-transparente, on l'envoie sur deux bras de longueur réglable et différente, et ensuite on les fait revenir, on les recombine, et ça fait comme le chemin optique est différent des deux côtés, ça fait ce qu'on appelle une figure d'interférence. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, en fait, c'est le principe de l'interféromètre. On a fait plein de choses avec cet interféromètre de Michelson. Il y a énormément de physique du début du 20e qui s'est fait avec ça. Et en fait, là, le système qu'ils utilisent, c'est de mettre un énorme interféromètre. Alors, on y viendra, mais les détecteurs, là, on est sur des branches de 4 km, plusieurs kilomètres de long, où en fait, la lumière va se propager dans deux couloirs, on va dire, perpendiculaires l'un à l'autre, et revenir, être combiné, observer la figure d'interférence. Et en fait, quand il y a une onde gravitationnelle qui passe dans ce système-là, ça va légèrement faire osciller la position des miroirs et donc modifier la figure d'interférence. Mmh. Et c'est ça la technique qui est utilisée à l'heure actuelle pour les observatoires gravitationnels. Donc, ça m'y amène. Le plus connu, c'est LIGO. LIGO, c'est vraiment l'observatoire principal qui est aux États-Unis. C'est à la base un projet d'une collaboration entre le MIT et Caltech. Et donc ça veut dire LIGO, ça veut dire Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, c'est-à-dire observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. Yes. Donc c'est un truc qui fait 4 km de long, parce que vous avez ces énormes bras, et c'est parce qu'on utilise cet interféromètre de Michelson géant.
Ah oui.
Je ne m'étends pas plus, c'est ça en tout cas le détecteur principal, c'est lui, LIGO, qui a fait cette première détection en 2015. Et je mentionne quand même qu'il collabore étroitement avec un instrument italien qui s'appelle Virgo.
Ouais.
Et qu'en fait, ça, c'est vraiment les deux, à l'échelle mondiale, c'est vraiment les deux instruments pionniers sur le domaine. Il existe un projet japonais qui s'appelle Kagra, qui est installé au fond d'une mine désaffectée. Parce qu'évidemment, vous imaginez les sensibilités des mesures. Enfin, ça, c'est...
Mais d'ailleurs, je crois que la première, ils ont cru que c'était une erreur de mesure.
Oui.
Et à force de se rendre compte que non, ils se sont dit, bon, on a vraiment détecté un truc. Et c'est aussi l'intérêt d'en avoir deux, LIGO et Virgo. Parce que si les deux captent la même chose, on va dire, bon, c'est pas une erreur de mesure dans les deux. Tu vois,
il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est aussi de parcourir. Si on a un réseau fait, sur la surface de la Terre, on peut observer plus de parties du ciel, de choses, et avoir plus de chances d'avoir des détections. Parce qu'au final, il y a quelques dizaines de détections pour l'instant sur Virgo et LIGO.
En 10 ans,
on est quand même sur quelque chose pour l'instant qui est au début de cette discipline. Donc Virgo, il est un peu plus petit, il fait 3 km. Le projet japonais, apparemment, a un peu de mal à donner de vrais résultats. Donc, en tout cas, je vais revenir là sur cette première détection qui a quand même été un truc vraiment important dans la communauté scientifique, en fait, puisque ça faisait plus de 100 ans qu'on prédisait l'existence de ces ondes et qu'on n'avait jamais été capable de les détecter, etc. Et là, en fait, le 14 septembre 2015, première détection directe d'ondes gravitationnelles par LIGO. Et il s'agissait a priori de la coalescence de deux trous noirs, c'est-à-dire deux trous noirs qui fusionnent. Donc là, quand je vous parlais de phénomènes énergétiques, on est quand même sur des trucs qui sont assez extrêmes, quoi. Et là, effectivement, il y a un prix Nobel qui est tombé en 2017 pour le trio Weiss, Barish et Sorn, qui sont en fait les instigateurs du projet LIGO, quoi. Et comme je vous disais, jusque-là, il y a eu quelques dizaines de détections. Voilà. Donc, en termes de, pour l'instant, je dirais, en termes de retombées réellement scientifiques, je sais pas. Hormis le fait de se dire, bon, ok, ça existe, on le valide par l'expérience. Donc, on ne délire pas. Toute cette théorie, elle est valable, etc. Ce qui est quand même important. Hein. Enfin, c'est pas rien pour un scientifique de valider par l'expérience. C'est quand même la base de la physique.
Ouais, il a fallu 100 ans pour arriver à valider un truc. Ouais.
Ouais, ce qui est quand même, ce qui est toujours quand même un petit peu admiratif sur la puissance des mathématiques parfois, ou c'est de la modélisation. Parce que les mecs, 100 ans avant qu'on soit capable de le faire, ils disent que ça va se passer et ça se passe.
Ouais.
Donc là aussi, ça annonce un petit peu. Je vous ai dit, on fera un débat sur la science. Pour la centième, c'est le genre de choses où on n'est pas dans l'opinion, on n'est pas dans quoi que ce soit, on est quand même dans quelque chose de construit et de vérifiable, etc. On parlera aussi des limites de la science, vous inquiétez pas. Mais elle a aussi des pouvoirs, quoi, et ça en fait partie. Donc voilà. Je vais quand même parler un petit peu plus, mentionner que les ondes gravitationnelles, en fait, il y a un truc, c'est qu'elles interagissent très peu avec la matière. Donc ça, d'un côté, c'est un inconvénient parce que ça les rend difficiles à détecter. Mais d'un autre côté, quand on arrive à les détecter, c'est intéressant parce que ça nous permet d'accéder à des zones qui sont très denses. Par exemple, le cœur des galaxies, où optiquement, on peut pas passer. On est saturé en signal, on peut pas aller voir ce qui se passe là-bas, à l'intérieur. Mais avec les ondes gravitationnelles, on peut. Dans les cœurs de supernova aussi. Donc on peut accéder à des zones qui sont optiquement super denses par les ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est aussi un des intérêts futurs, je dirais, de cette discipline. Et il y a un autre intérêt, en fait, aussi, c'est qu'elles permettent de voir très tôt dans l'univers. C'est-à-dire, alors là aussi, ça amène à des concepts qui sont quand même... On a déjà évoqué, que je ne vais pas résumer en 3 minutes, mais pour ceux qui ont suivi, on a déjà parlé du rayonnement cosmologique et de ce rayonnement à 3 Kelvin, en fait, qui est issu du Big Bang et du moment où l'univers est devenu transparent. Donc, l'univers est devenu transparent, ça veut dire que le signal électromagnétique a pu commencer à se propager à travers l'univers. Mais en fait, comme les ondes gravitationnelles n'interagissent pas avec la matière ou très peu, et ben en réalité, on peut avoir accès à un fond cosmologique qui s'est produit avant. Cette affaire-là. Exactement. Et donc remonter à aller encore plus loin vers l'instant zéro, l'hypothétique instant zéro, puisqu'on arrive à un moment où le temps n'a plus de sens. Bon, ça c'est encore un autre débat. et avoir des informations cosmologiques aussi par le biais de l'astronomie gravitationnelle. Voilà. Donc je finirai là-dessus en disant que et ça rejoint un petit peu les discussions qu'on a eues avec Jean-Baptiste la semaine dernière, là, pour ceux qui ont suivi, avec cet astrophysicien qui est venu nous raconter un peu son travail. De plus en plus, en fait, en astrophysique, on cherche à multiplier les observations d'un même phénomène, mais à travers différentes longueurs d'onde. Donc on en parlait par exemple sur les rayons X ou les rayons gamma.
Les GRB. Ouais.
Voilà, les gamma ray bursts. Les
sursauts gamma.
Les sursauts gamma, merci. D'arriver en fait à les détecter en sursaut, en rayons gamma, mais aussi du coup d'avoir une contrepartie dans le visible, etc., en radio, dans toutes les longueurs d'onde, pour pouvoir avoir plus d'informations en fait, sur mieux comprendre le phénomène. Et c'est un peu pareil avec en fait... maintenant, les ondes gravitationnelles, qui vont compléter encore la connaissance que nous amène le rayonnement électromagnétique. Voilà un petit peu ce que je voulais dire.
Merci, déjà. J'ai une question qui me vient. Est-ce que... Ça va venir. Oui, donc ma question... on n'observe que des phénomènes avec les ondes gravitationnelles. On n'observe pas... ce qui est stable. Est-ce que c'est une limite de cette technologie, j'allais dire, de cette branche de la science, ou est-ce qu'on n'est pas encore capable de le faire, mais est-ce qu'on pourrait imaginer décrire le système solaire via les ondes gravitationnelles plutôt que via un télescope classique?
Système solaire, je pense pas, parce qu'en fait les masses sont trop faibles. Oui, mais après, imaginons qu'on ait une sensibilité.
Est-ce que c'est une histoire de sensibilité, ou est-ce que c'est parce que vraiment on peut observer que les événements et pas
le temps le dira. J'ai pas la réponse.
Okay.
Parce que voilà, c'est effectivement, c'est sûr qu'il y a un biais pour l'instant, qui est la sensibilité des instruments, qui font qu'on arrive à détecter que des ondes gravitationnelles émises par des trucs vraiment brutaux.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a possibilité dans la suite? Je ne sais pas, on verra. C'est pas la réponse. Je voulais juste mentionner, avant de conclure, en fait, une petite branche aussi de l'astronomie qui essaye de, qui est là, c'est l'astronomie des neutrinos.
Ouais.
Donc les neutrinos, c'est des drôles de particules aussi, qui, on ne sait pas si elles ont une masse, on l'a cherché pendant longtemps, mais ce n'est pas très clair. Des particules
on a même cru qu'elles allaient plus vite que la lumière.
Pas très clair, les neutrinos. En tout cas, on les détecte, hein, ça existe, les neutrinos, ça fait partie des particules élémentaires de l'univers. Et c'est aussi des particules qui interagissent très peu avec la matière, donc qui sont très difficiles à détecter.
Parce qu'elles traversent tout.
Elles traversent tout. Ouais. En fait, on est en permanence traversé par une quantité phénoménale de neutrinos, mais ça nous fait rien, quoi. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, il y avait, je voulais quand même mentionner ce.
Ça nous fait rien, on ne sait pas. Oui. Peut-être que sans eux, on vivrait 200 ans.
Ou voilà. Ou 10 ans.
Ou 10 ans, ouais, aussi. Ouais. C'est vrai.
Effectivement, on n'en sait rien. En tout cas, mais je voulais mentionner ce détecteur là, qui s'appelle Ice Cube, qui est au pôle sud, où en fait c'est un énorme réservoir de glace et où ils arrivent à piéger des neutrinos, à observer dedans le passage des neutrinos qui viennent de l'espace. Je pense qu'ils l'ont installé au pôle sud aussi parce que tu es au niveau du pôle magnétique et il y a des choses qui rentrent. Je sais pas, mais c'est surtout que tu es loin aussi des pôles, de toute perturbation autre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais je voulais mentionner cette astronomie des neutrinos parce qu'elle existe aussi. Elle est très peu développée parce que c'est vraiment difficile à détecter. Oui. Mais là aussi, qui sait dans 100 ans ce que ça peut donner. Un autre accès à la connaissance du cosmos, toujours avec des particules qui sont quand même... neutrinos, on est vraiment très près de tout ce qui est physique des particules. Donc on touche vraiment quand même à la matière dans son caractère un peu intime, quoi, vraiment dans sa structure fondamentale. On est sur de la physique des particules, en fait. Donc, on vient là sonder des choses qui sont très profondes, quand même, dans ce qu'est réellement l'univers. Voilà. Donc, je mentionne tout ça, que ce soit les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. On est plutôt au début de ces disciplines. Et on verra bien ce qu'elles nous amènent.
Des nouveaux chemins pour observer l'univers, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Voilà pour cette petite chronique. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, c'est un hommage à notre ami JB, pour ceux qui s'en souviennent, qui était là la première édition de Marignac Fête les Étoiles, où il était venu nous faire profiter de son superbe télescope Dobson de 650 mm. Et on va passer donc un morceau de la BO de Blade Runner qui s'appelle Wait for Me.
Yes. Et on l'embrasse.
Et on l'embrasse. Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors, on va continuer le déroulé de ce 98e épisode avec la chronique spatiale de Pierrick, qui cette semaine va nous parler de Youri Gagarin.
Et ouais, c'est, j'en avais pas encore parlé, et ça me manquait un
peu.
Bah
oui, c'est, hein, c'est presque étonnant.
Et ouais, hein. Et là, bah voilà, j'ai envie de vous en parler. Alors, Youri Gagarin, alors, c'est un, tout le monde le connaît, hein, j'imagine. Enfin, j'imagine. C'est quand même le premier homme dans l'espace. Il est plus connu que l'Américain qui a été quelques mois plus tard. C'est vraiment la figure de l'espace. Enfin, en tout cas, j'imagine. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le personnage emblématique, quoi.
Oui, bah, c'est le cosmonaute dont le nom est le plus connu au monde, je
crois.
Ouais,
c'est ça.
Gagarin.
Ouais, c'est vraiment... Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de son histoire, comment il a vécu, tout ça. Donc, il est né le 9 mars 1934 d'un fils de charpentier et de sa mère qui était laitière. Donc, il vivait dans un kolkhoz. Donc, les kolkhoz, au temps de l'URSS, hein, au temps de la Russie communiste. Les kolkhoz, c'était des grandes fermes partagées.
Communiste, communiste.
Ouais.
Dictature militaire.
Ouais, voilà. Bon, dit communiste.
Dit.
Ouais. Moi, je savais pas qu'il était de kolkhoz, Gagarin.
Ah oui, c'est. Ouais. Mais, ils ont, enfin, c'est tu vas en parler, mais ouais, il était l'image, quelque part, en fait.
Ah bah oui,
le
oui,
russe
oui,
parfait.
C'est... Ah oui.
Il était voilà, populaire, etc.
Oui, bah, ils ont utilisé ça.
Bah, à fond. Ah, voilà. Mais tu vas ouais. nous le dire.
Ouais, vas-y, vas-y.
Donc voilà, il vivait dans un kolkhoz, donc ces espèces de fermes partagées à plein de gens, hein, où c'était très typique en Russie de l'époque. Donc la vie est rude, ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante, donc c'est quand même une vie russe costaud, on va dire. Et à 7 ans, la Seconde Guerre mondiale éclate et l'Allemagne nazie envahit la Russie de l'époque. Donc là, on est en 1941.
Enfin, essaye, quoi.
En tout cas, son...
ils sont allés loin.
Oui, ouais, ils sont allés loin.
Parce que son village a été occupé. Il était à 6 km de la ligne de front pendant un an et demi. Donc, il y avait beaucoup d'Allemands nazis, on va dire, dans son village, qui occupaient les maisons. Avec voilà, toute cette. Il a eu plein d'histoires avec les Allemands nazis de l'époque dans son village où il a failli. Son frère a été pendu pendant un certain temps, mais ils ont réussi à le sauver. Son père a été battu à mort et il a été handicapé à vie. Voilà, c'était vraiment des temps très durs de la Seconde Guerre mondiale. Et il a vécu ça donc, très jeune, donc ça l'a marqué fortement. Et à cette époque, il était déjà fan d'avions. Et il connaît tous les avions, autant allemands que soviétiques. Comme du coup, comme il est proche de la ligne de front, il les voit passer très régulièrement. Ouais. Donc il apprend, il les connaît. Notamment, il y a un moment, il y a un avion soviétique qui se crache pas loin de chez lui. Donc il va le voir. Là, il y a un autre avion qui arrive, qui se pose pour récupérer le pilote. Et du coup, là, apparemment, il est monté dans le cockpit et le pilote lui a montré 2-3 trucs avant qu'il reparte. Donc voilà, ça c'était à la fin de la guerre quand les Allemands commençaient à reculer à partir de 1942. Et donc à partir de là, il, voilà, il est vraiment un fan d'aviation. Et il commence à prendre des leçons de pilotage dans un club aéronautique dans une ville où il va commencer ses études. Il fait des études d'ingénierie agricole, je crois. Et donc il se passionne d'aéronautique, il va dans ce club et il se dit qu'il va faire ça de sa vie. Et donc en 1950, il part dans une école de pilote de chasse de l'armée, où là il va vraiment apprendre à faire à piloter un avion de chasse et à devenir pilote. Et du coup il est très remarqué par cette école où il devient l'un des premiers pilotes, il est très doué. Et à cette époque, peu de temps après, Khrouchtchev prend le pouvoir en URSS. Et donc, c'est une période qui change un peu de l'ère stalinienne d'avant. C'est une période de détente, on va dire, où les où en tout cas, le rêve d'une vie meilleure, d'une nouvelle vie, et en tout cas dans toutes les têtes, après la dureté de la Seconde Guerre mondiale, la dureté de Staline et de ses purges, etc., Voilà, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à cette époque et en tout cas, tout le monde a envie d'en profiter. Et donc, c'est à ce moment-là que Korolev, Sergei Korolev, donc ça, c'est un ingénieur russe très performant. C'est lui qui va mener tout le début du programme soviétique et qui va faire toutes les grandes premières du début. Donc, il envoie Spoutnik, le premier satellite dans l'espace. Après, ils envoient la première chienne dans l'espace, Laïka, qui, soit dit en passant, elle meurt dans l'espace, elle ne reviendra jamais. Mais il y a eu d'autres chiens qui, eux, sont revenus entre-temps. Et voilà, en octobre 59, commence le recrutement des cosmonautes. Donc, ils sont plus de 2000. À la fin, il n'y en a que 6 qui, 6 pilotes vraiment possibles. Et dont 2. Il faut faire un choix entre les deux, les meilleurs. Donc il y a German Titov et Yuri Gagarin. Donc là, pour définir lequel des deux va partir, il y a tout
un... Ils ont baissé leur froc.
Il y a tout un truc où German Titov, c'est un fils de professeur d'une classe un peu plus élevée, on va dire, dans la société russe de l'époque. Et Yuri Gagarin, donc voilà, qui est fils de paysan, quoi. Et il est plutôt choisi pour ses origines et aussi parce que le premier vol qu'il pense faire va être un vol court. Donc il va faire 108 minutes dans l'espace. Et il préfère Titov, qui est plus costaud. Alors, il pense que German Titov sera plus costaud pour un deuxième vol qui sera beaucoup plus long. Et donc, il préfère garder Titov pour le second vol et se garder Yuri Gagarin pour le premier vol. Et sur les 20 cosmonautes sélectionnés, ils demandent à chacun, selon eux, qui serait le mieux pour aller dans l'espace. Et il y en a 17 qui votent pour Gagarin. Donc voilà, c'est quand même qu'il est bien pressenti. C'est un peu la star du moment, quoi.
C'est un peu étonnant que pas tout le monde ait voté pour soi-même, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté...
Non, t'as pas le droit de voter pour
toi. Voilà. Ah, bah, oui. Ils n'ont pas fait un truc comme ça, côté américain aussi, là, au début, pour savoir qui allait être le premier, une espèce de vote...
Surtout qu'il ne l'aimait pas, peut-être. Je pense. Il ne l'aimait pas, je pense. Les autres, c'est pour ça. Ils nous disent, on va envoyer lui, là. L'autre casse-couille. Comme ça, si ça pète,
on va être débarrassé.
Pas grave. C'est...
Puis voilà, Yuri, il est souriant, c'est un beau gosse, il est très intelligent. Il profite de...
Il énerve, quoi.
Il a une réussite sociale. Il est choisi aussi pour son origine sociale de paysan. C'est un peu l'incarnation de la réussite soviétique, quoi. Donc, chacun peut devenir ce qu'il a envie, en gros. En très gros. Donc, on arrive au 12 avril 1961, donc le jour où il est parti dans l'espace. Et il enfile sa magnifique combinaison orange soviétique de l'époque. Qui est orange, pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils atterrissent dans un endroit plein de neige,
on
le voit bien. Et il y a une anecdote célèbre, c'est parce qu'il est dans le bus pour aller donc au pas de tir à Baïkonour, dans le Kazakhstan. Et il n'en peut plus, il faut qu'il pisse. Donc le bus s'arrête et il fait pipi sur la roue du bus. Et depuis, apparemment, chaque cosmonaute russe, il y a une petite tradition. Il fait une petite pause au milieu du trajet et s'arrête...
Tu avais fait une émission, Axel, sur les traditions dans le spatial, et il me semble que tu avais parlé de ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est, j'avais fait deux émissions, même, les 56 et 57e. Mais si je me souviens bien, en plus, on ne sait plus si c'était la roue arrière-droite ou arrière-gauche. Du coup, c'est bon. On a inventé un truc là-dessus, alors qu'on ne s'en souvient pas vraiment. Quoi.
Ouais.
Mais ouais.
Et apparemment, il ne s'est pas rasé ce jour-là. Et c'est pareil, aucun cosmonaute russe ne se rase le jour du départ. Bref.
Le mythe Yuri Gagarin. <Ouais. rire> La légende vivante.
Ouais, c'est marrant. Et donc, il part sur un vaisseau, un peu l'ancêtre du Soyouz, un Vostok. C'est vraiment la même architecture. Ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque. En tout cas, c'est un vaisseau entièrement automatique où le cosmonaute n'a normalement rien à faire. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont... Et à l'époque, comme personne n'était allé dans l'espace, ils avaient peur qu'on devienne fou dans l'espace, Comme ils étaient un peu parano, les Russes, ils pensaient que aussi, ils disaient tiens, il va passer à l'ouest, il va emmener de la technologie avec lui aux Américains. Donc pour éviter ce genre de désagrément, ils ont fait un système complètement automatique. Il y a quand même un système manuel, mais accessible seulement avec un code.
Ils lui ont pas donné.
Qui lui donne que en cas de dernier d'urgence, de dernier recours.
Ah oui.
Toi, le truc, c'est fourbe quand même.
Ça, c'est... Ouais, enfin bon, c'est juste histoire de dire qu'on fait un vol habité en fait. Mais
oui. Bon, finalement, avant le départ, il y a donc Korolev, dont je parlais, l'ingénieur en chef, qui lui donne le code. Il y a un autre mec avant le départ qui lui donne le code aussi. Bon. Ils avaient quand même un peu d'humanité, heureusement, merci. Et donc, voilà, il avait quand même 50% de chance de réussite. Hein. Surtout, il y a eu 6 vols avant, 6 vols d'essai, là, donc de Laika et puis d'autres chiens. Hein. Et il y a eu, voilà, 50% de réussite, donc...
C'était dans les mêmes vaisseaux, dans des Vosges Code aussi.
Ouais, c'était les mêmes qui étaient testés.
Ok.
Donc une chance sur deux, ils ont avancé le vol parce que les Américains aussi avançaient de leur côté, donc comme ils avaient envie d'être les premiers, ils l'ont avancé et voilà, ils étaient prêts, mais c'était limite. Et du coup, ils décollent, et là, apparemment, il y a en russe, alors je vais pas faire du russe, mais Gagarin aurait dit « c'est parti », et ça c'est très connu en Russie apparemment, cette phrase de Gagarin quand il est parti était très joyeux en fait d'aller dans l'espace. C'est parti. Là, il se prend 5G dans la tronche.
Davaï, non, c'est pas ça.
Peut-être bien. Ouais. Ouais.
Allons-y.
Donc là, il se prend 5G dans la tronche. Et c'est 5 fois son poids. Il ressent 5 fois son poids. Et donc, c'est assez court hein, pour aller dans l'espace pour quelques minutes. Et là, sous ses pieds, il y a un hublot. Donc. Sa première phrase qu'il dit, il fait waouh, que la Terre est belle, quelle merveille, je vois les nuages, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est ses premières phrases. Et là, il décide de communiquer, il décide de parler au monde de ce qui est en train de se passer. Parce que jusque-là, c'était absolument top secret. Et même les Américains ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et tout le monde l'apprend à ce moment-là, quoi. Et donc il fait 108 minutes de vol, il fait un tour de la Terre, et après il retourne en Russie. Et là ça commence à être compliqué. Donc normalement les rétrofusées s'allument, donc c'est ce qui s'est passé, les rétrofusées s'allument pour freiner, pour re-rentrer dans l'atmosphère. Sauf que, je sais pas, elles s'allument mal, du coup le vaisseau part en vrille, il tourne sur son axe, donc là il est ballotté dans tous les sens. Il se prend 10G dans la tronche. Donc c'est le double de la montée. Donc là, il faut être costaud, je pense. Et normalement, le vaisseau se sépare il se sépare à ce moment-là de la capsule. Sauf qu'il y a des câbles qui se cassent pas. Du coup, il reste à moitié accroché dans toute la descente. Finalement, ça arrive à se séparer. Et il s'éjecte. C'était la procédure à l'époque. Le vaisseau n'atterrit pas avec des parachutes comme on les voit un peu maintenant. La procédure, c'était qu'il s'éjecte avant. Parce que le vaisseau arrivait trop vite et s'il était dans le vaisseau, il s'écrase, quoi.
Il s'éjecte et lui, il a un parachute.
Ouais, oui, quand même.
Ouais,
et donc,
il atterrit dans la neige, peut-être que.
Ouais.
C'est amorti bien. Hein.
Voilà.
Dans une pente, hein, peut-être.
Ah, oui.
Non, il s'éjecte. Et il n'est pas du tout au bon endroit, mais il est quand même en Russie. Donc il s'éjecte de la capsule et finit en parachute. Et ça va, il s'en sort. Il est retrouvé par deux fermières qui hallucinent de voir ce mec sortir de nulle part avec sa combi orange. Donc voilà, le premier vol, c'est une réussite. Et là, comme on disait en début d'émission, là, c'est devient un outil de propagande phénoménal. C'est Yuri Gagarin devient la star mondiale de l'URSS, quoi. Il fait une tournée mondiale, il va dans tous les pays, il est acclamé partout. Ça devient une star, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très connu de l'époque. Il est vraiment adulé partout, reçu partout. C'est le premier homme dans l'espace, c'est incroyable. Je sais pas si on s'imagine à l'époque ce que ça devait être. De partir comme ça dans l'espace et de revenir. C'était fou, quoi. c'était un truc incroyable. Et donc, cette vie de star, au bout d'un moment, ça lui monte un peu au cerveau, à Yuri. Et donc, il a quand même une femme, Valentina, et deux filles. Et il devient un peu... Il boit beaucoup d'alcool, à force de faire des tournées dans le monde où il est reçu partout.
Une rockstar, c'est une rockstar.
Ouais, ouais, un peu, c'est à ce côté, ouais, ouais. Il y a beaucoup de tentations au niveau des femmes, etc.
Quelle honte.
Et il y a...
Quelle indignité.
Et du coup, il y a plein d'histoires qui entachent un peu le mythe où,
ouais,
justement le parti communiste de l'époque veut vraiment le garder propre et ouais, c'est ouais, la star, il faut...
Ouais, le mec parfait.
Ouais, il faut en prendre soin, c'est vraiment...
Alors qu'il n'est qu'un homme.
Voilà. Du coup, voilà, il y a des scènes de ménage avec sa femme, il y a un moment où il tombe dans un escalier ou d'un balcon... Et il arrive un peu avec la gueule cassée, puisqu'il avait trop bu. Enfin...
La gloire.
Ouais. Donc voilà, et ça commence à s'écorner. Et en 64, Khrouchtchev quitte le pouvoir, il est remplacé par Brejnev. Et il était très proche de Khrouchtchev, Gagarine, et il s'appréciait apparemment. Et du coup, beaucoup moins avec Brejnev, ça, une ligne un peu plus dure de la Russie de l'époque qui prend le pouvoir à ce moment-là. Mmh. Du coup, il est un peu mis de côté, quoi. Donc, il devient un mythe, un héros, mais vivant. Donc, ils veulent pas. Il est un peu interdit de vol, parce qu'ils veulent pas l'abîmer. Hein. Donc, il commence à déprimer, à tomber d'autant plus dans l'alcool. Donc, mais quand même, il se démène, et il devient suppléant de Komarov. Donc, Komarov, c'est un autre cosmonaute russe qui fait un vol quelques années plus tard. Mais Komarov, il meurt dans le vol en revenant sur Terre et il s'écrase. Et en fait, pendant toute la durée de préparation de ce vol, Yuri, donc c'est son suppléant, donc il est part entière du vol. Et il voit beaucoup de corruption, beaucoup de malfaçons. Il y a beaucoup de choses qui sont mal faites sur les vaisseaux, au niveau d'ingénierie, quoi, qui sont pas normales. Il demande des rendez-vous à la hiérarchie, à Brejnev, pour dénoncer tout ça, pour dire que c'est pas possible. Son camarade, il va mourir, c'est mal fait. C'est quand même des ingénieurs, les types. Hein, c'est pas, en maths et tout, ils ont des niveaux... c'est pas n'importe qui, hein, donc ils savent de quoi ils parlent. Et Brejnev refuse le rendez-vous à Gagarine. Et il voit son camarade mourir dans ce vaisseau. Et du coup, là, ça lui met vraiment un coup au moral. Il arrête les vols spatials, il est plus dans la course, quoi. Et voilà, il continue à boire de l'alcool. Et finalement, en 1900, dans les années 60-65, un peu après 65, il décide de retourner à l'aviation. Mais bon, il a pris du poids et voilà, donc il se met un gros entraînement pour reprendre les avions de chasse, pour reprendre des cours d'avions de chasse. Et là, dans un vol d'école, quoi, il a un accident avec son maître à bord. Son formateur, merci. Il a un accident et l'avion se crache et il meurt. Et là, c'est le drame.
C'est le drame, drôle de destin quand même.
Et alors là, il y a, ouais, dans l'enquête, il a 34
ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a 35 ans. Là.
Ouais, 35 ans, il est encore tout jeune. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'enquête finale. Je pense dû à de l'incompétence, des erreurs,
des
négligences. Et tout le monde se dit, oh là là, c'est Gagarine, je veux pas être impliqué à ça.
Ouais.
Donc tout le monde traficote un peu le dossier pour s'écarter du truc.
Et d'un coup, c'est la faute de personne.
Voilà.
Voilà.
Et voilà, pas de responsable de la mort de Yuri.
En même temps, un héros mort, c'est toujours plus pratique qu'un héros vivant. C'est beaucoup plus facile de le mythifier. Au moins, il fait pas de merde, il boit pas d'alcool,
voilà,
il fait pas tout ça. Toi, c'est un peu, petite parenthèse, mais quand Charlie Parker est mort, par exemple, grand jazzman, tu vois, le mec, il était tellement déchiré qu'à la fin de sa vie, il pouvait même plus jouer dans les clubs qui portaient son propre nom. Tu vois, et une fois qu'il est mort, c'est un super héros, tout le monde était trop fort. Tu vois, il y a souvent ce truc-là, quoi.
Ouais, hein, c'est un héros vivant, et ça
c'est pas bon,
ça marche pas.
Non.
Et donc voilà, il meurt comme ça, à 34 ans. Il avait deux filles, hein, donc je l'ai dit, voilà. Et donc là, voilà, c'est un peu la fin de la guerre froide, la fin de la compétition URSS-États-Unis, même si elle continue, mais quand même, elle est plus calme. Et voilà, je voulais finir par ça, que finalement, c'est quand même un projet pour l'humanité, ce spatial, quoi, d'explorer l'espace.
Cette course à l'espace.
Cette course. Et du coup, c'est quand même l'un des rares endroits où les Russes, les États-Unis et les Européens aussi collaborent pour faire vivre cette station spatiale qui est toujours active, hein, où il y a toujours des Russes et des Américains et des Européens à bord.
Les Chinois, par contre, ont leur propre station.
Par contre, les Chinois font bande à part.
Il y a des Japonais.
Il y a des Japonais.
Ouais, de temps en temps.
Ah, sur les Chinois, tu veux
non,
dire?
Non, dans l'ISS.
Ah oui, dans l'ISS.
Bah non, tu restes.
Bah non. Tu m'as fait peur.
Non, c'est l'ISS.
Non, chez les Chinois, il y a eu des Coréens du Nord.
Ah oui, ok.
Il y a peut-être des Indiens aussi. Ils n'ont pas que le cosmonaute quand même, les Indiens qui sont sur l'ISS, il me semble.
Dans l'ISS,
ouais.
Des Indiens. D'ailleurs, l'un des... pas loin d'envoyer un mec dans l'espace aussi, dans quelques mois, là, en 2026, je pense.
Ouais, ils ont un petit programme, les Indiens. Ouais. C'est sûr, c'est pas les États-Unis, l'Europe ou la Chine, mais ils ont quand même un petit programme.
Ouais. En tout cas, il a donné son nom à un cratère lunaire, à un astéroïde. Et c'est un jour férié en Russie, le 12 avril 61.
Ouais. Son anniversaire de naissance ou de mort?
Non, le jour de ça.
Le jour où il est allé dans l'espace.
Le jour où il est allé dans l'espace, d'accord.
Ouais, c'est un jour férié.
Ouais, stylé.
Et voilà. Sur ce personnage.
Bon, mais il ne reste plus qu'à parler de Valentina Tereshkova, la prochaine fois, la première femme dans l'espace.
Ah oui, mais on en avait déjà parlé dans une émission.
Ah oui.
C'était
Oui, pour ceux qui écoutent l'émission depuis pas trop longtemps, enfin il y a quand même peut-être 3 ans, je sais pas, on avait Amandine Faune là qui avait fait toute une petite série d'émissions sur le rôle des femmes dans l'astronomie, mais aussi dans le spatial. On vous renvoie à cette série d'émissions qui était aussi intéressante sur cet aspect-là.
Et
c'était aux alentours de la 10e émission.
Utiliser leur image pour. Parce qu'à la base, c'est des mecs qui adorent voler, ils sont passionnés par ça, quoi. Ouais. C'est toujours utilisé à des fins politiques.
Eh ben, merci Pierrick.
Ouais.
On va clôturer là cet épisode. On vous souhaite une belle semaine, de belles observations du ciel. À bientôt.
Ouais, et un bon dimanche.
Bon dimanche.